Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma.
Dans l'actualité des sorties DVD Blu-ray, coup de projecteur sur l'édition du Prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer que nous évoquons en compagnie de Doug Headline, sans oublier 5 et la peau de Pierre Issian et Profession Reporter de Michelangelo Antonioni. On débute cette actualité DVD Blu-ray avec la sortie du Prisonnier d'Alcatraz de John Frankenheimer, édité chez Wildside, film de 1962 avec Burt Lancaster, Carl Malden, Thelma Ritter et Telly Savalas. En 1962, John Frankenheimer porte à l'écran l'histoire vraie de Robert Stroud, à l'époque le plus vieux prisonnier des États-Unis qui resta derrière les barreaux pendant 54 ans suite au meurtre d'un homme ayant maltraité une prostituée puis d'un gardien de prison. L'homme échappa de peu à la peine de mort, puis se prit d'affection pour les oiseaux, au point de devenir un spécialiste des volatiles, leur consacrant plusieurs ouvrages et rassemblant jusqu'à 300 oiseaux dans sa cellule. Le livre de Tom Gatiss, puis le film de Frankenheimer, soulevèrent un immense courant de sympathie dans tout le pays, en faveur de la libération de Stroud, qui mourra en prison un peu plus d'un an après la sortie du film, le 21 novembre 1963, soit la veille de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. Il ne vit jamais le prisonnier d'Alcatraz, qui est pourtant un immense film d'une intensité inouïe, baigné par un splendide noir et blanc et porté par l'interprétation exceptionnelle de Burt Lancaster. Nous en parlons en compagnie de Doug Headline, auteur d'un excellent livret Au-delà des grilles qui accompagne cette très belle édition DVD Blu-ray. Doug Headline, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Flashback.
Merci.
Alors, le cas de Robert Stroud intéressa tout d'abord donc Tom Gatiss, qui publia le livre Birdman of Alcatraz, qui inspira le film. Alors, qui était-il et pourquoi s'est-il passionné pour cette histoire de Robert Stroud?
Eh bien, Gatiss était un contrôleur judiciaire, également un enseignant, un type assez carré, apparemment, très sérieux, qui tout d'un coup tombe dans des journaux locaux sur l'histoire étrange de ce prisonnier qui avait réussi à obtenir au fil des années des privilèges tout à fait rares et vraiment inédits dans le cadre des institutions américaines de l'époque, puisque ce type était depuis des dizaines d'années déjà, au moment où Gatiss s'intéresse à lui, à la fin des années 40, début des années 50, il était déjà en prison depuis un bon moment, et tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est un vieux prisonnier, c'est un prisonnier qui est condamné depuis très longtemps pour une sorte de double crime, en fait, un crime en deux temps. D'abord un premier meurtre, peut-être par inadvertance au cours d'une bagarre dans une rixe où il semble qu'il ait défendu une prostituée, dont peut-être il était le souteneur ou peut-être pas, on ne sait pas. Bref, il tue un type, il se retrouve en prison. Quelques temps après, au fil d'une confrontation avec un gardien qui apparemment le traitait pas très bien, le malheureux Robert Stroud se retrouve à tuer le gardien par une sorte d'accès de violence, un peu incontrôlé. Il faut dire que Stroud n'était pas du genre si calme que ça. Et Tom Gatiss tombe sur ce personnage et se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein, ce criminel violent, incarcéré depuis des décennies, qu'on ne laisse pas sortir, dont on ne commute pas la peine, et qui devient passionné des oiseaux. Donc voilà, l'aspect insolite de l'histoire attire l'œil de ce contrôleur judiciaire, qui du coup se met à essayer de remuer ciel et terre pour comprendre ce qui s'est passé, trouver les archives. Il faut dire qu'à l'époque, l'administration pénitentiaire n'a pas du tout envie de communiquer autour du cas de Stroud, qui est effectivement une anomalie dans le système américain, et c'est ça qui intéresse Gatiss.
Alors, il s'est battu afin que Stroud obtienne une liberté conditionnelle, dénonçant l'injustice dont il était victime. Lancaster se décida vite à produire le film et jouer le rôle principal. Pourtant, sa société de production à l'époque était en bien mauvaise posture.
Oui, c'était une décision audacieuse pour Burt Lancaster, qui était à l'époque une très grosse vedette. Hein, c'était quasiment une des plus grosses vedettes des États-Unis. Il avait remporté de gros succès tout au long des années 50. Disons que probablement dans le souci de mieux contrôler ses sujets et de traiter dans ses films des sujets un peu plus sociaux, un peu plus modernes que ce que faisait Hollywood parfois dans les années 50, disons quelque chose de moins proche du divertissement que de la réflexion. Il avait lancé avec deux associés cette société de production, Norma, bon, qui était, disons, gérée d'une manière un peu hasardeuse et qui avait été portée par le succès inattendu de son premier film, qui était Marty, qui avait porté Ernest Borgnine jusqu'aux Oscars, ce qui était un peu étrange, en 1955. Mais bon, ce premier succès donne des ailes à la société de Lancaster, qui se met à produire de plus en plus de films. Certains marchent, d'autres non. En fait, ils prennent des gros risques financiers, et puis finalement, ben, patatras, après l'échec de l'extraordinaire Sweet Smell of Success, le grand chantage d'Alexander McKendrick, la société de production croule sous les dettes et il faut arrêter. Donc Lancaster s'endette auprès de la United Artists, qui accepte de lui éponger ses dettes en échange de 4 films qu'il va tourner pour un prix dérisoire par rapport à son salaire habituel. Il ne gagnera que 185 000 $ par film sur ces 4 films. Et Le Prisonnier d'Alcatraz va être le deuxième. Donc c'est à la fois un moment difficile pour Lancaster personnellement et un engagement très fort vis-à-vis du personnage de Straub, et non pas du véritable Straub, mais du personnage comme le décrit Tom Gaddis dans son livre, qui est un autodidacte, un homme qui a été en lutte avec le système, qui n'a pas permis au système de le briser et qui se retrouve dans une situation assez unique. Voilà, le plus vieux prisonnier des États-Unis, condamné, qu'on ne laisse pas sortir, dont on ne commute pas la peine et qui est vraiment très maltraité. Bon, voilà. Donc du coup, c'est un super personnage de rebelle qui plaît beaucoup à Lancaster. Et Lancaster se dit moi-même, qui est plein d'ennuis en ce moment, eh bien, je suis un rebelle et je vais prendre ce rôle en main et ce sera idéal pour moi. Et en fait, il a tout à fait raison.
Alors pourtant, il s'est heurté au barrage de l'administration pénitentiaire. Bon, il a réussi à tourner ce film. Ils n'ont pas pu tourner en prison, donc ils l'ont tourné en studio. Et puis, ils engagent. Alors là, c'est un petit peu une étrangeté. Au départ, ce n'est pas John Frankenheimer qui devait réaliser le film, mais Charles Crichton, qui fut d'abord envisagé, qui est un réalisateur de comédie anglaise et qui fut renvoyé au bout d'une semaine. Ça paraît assez étonnant.
Oui, c'est un choix curieux qu'on ne s'explique pas très bien, sauf que à l'époque, dans cette fin des années 50, début des années 60, les réalisateurs anglais ont la cote à Hollywood et il y en a plusieurs qui sont appelés. En fait, on les fait venir pour tourner des films américains parce que les Anglais sont réputés pour avoir à la fois une grande conscience professionnelle, mais aussi de travailler très bien avec les comédiens et de tenir les délais généralement. Bon, donc voilà. Bon, Crichton, qui n'est pas du tout un réalisateur de films noirs, est un choix étonnant, beaucoup plus que par exemple un Alexander McKendrick qui était très bien choisi pour tourner Sweet Smell of Success. Mais là, ça se passe mal. Et Lancaster, aussi investi soit-il par son rôle et son envie de mener le film à bien, ne s'entend pas du tout avec le réalisateur, ne s'entend pas du tout avec le chef opérateur John Alton, qui est une sorte de diva, un merveilleux chef opérateur, mais qui est une sorte de diva de la photographie, donc qui a des exigences pas possibles. Tout ça commence à tourner assez mal, et Lancaster, qui est un homme autoritaire, décidé et déterminé, choisit de se séparer de sa première équipe. C'est un moment crucial dans l'histoire du prisonnier d'Alcatraz, puisque tout d'un coup, on va voir arriver un réalisateur de génie, qui est John Frankenheimer, avec qui Lancaster a fait un film peu avant, Le Temps du Châtiment, un film noir qui se passe dans la rue, tourné en extérieur à New York, pour lequel les deux hommes ont extrêmement bien travaillé ensemble sans du tout s'entendre. Il y a eu une grosse confrontation parce que c'est tous les deux des égaux surdimensionnés, et Frankenheimer, très jeune, né en 1930, donc il a quand même bien moins d'années que son acteur, voilà, qui est né en 1913. Donc du coup, on se retrouve avec un jeune réalisateur têtu, plein de caractère et plein d'énergie, face à un acteur dominateur, plein de caractère et plein d'énergie. Donc évidemment, clash sur le tournage du Temps du Châtiment, mais le film est quand même sensationnel et fonctionne assez bien. Et du coup, quand Crichton est viré par Lancaster, eh bien, un des coproducteurs de Lancaster lui dit, écoute, il faut faire revenir Frankenheimer, lui va faire ça formidablement. Évidemment, Lancaster n'est pas tout de suite enthousiaste, il hésite, et puis il se laisse convaincre, et du coup, le film va devenir un extraordinaire tour de force de cinéma, parce que l'association de ces deux personnes au caractère intraitable, eh bien, à chaque fois qu'ils tournent ensemble, donne des films sensationnels, voilà.
Alors, ils sont en confrontation, certes, mais on a l'impression que c'est vraiment pour le meilleur. C'est peut-être un des meilleurs exemples qui soit. Au contraire, ils sont peut-être, ils sont sans doute été électriques, mais on a l'impression, quand on voit le film, d'une complémentarité totale. Et Lancaster, qui a peut-être jamais été aussi grand que dans ce film, et totalement au service de son personnage, n'est jamais dans une performance. Et la mise en scène de Frankenheimer, qui est d'une d'une précision incroyable, est aussi au service du personnage. C'est une association d'ailleurs qui continuera hein, par la suite, ils tourneront d'autres films ensemble. C'est comme quoi on n'a pas forcément besoin d'un plateau toujours idyllique pour faire un chef-d'œuvre.
Non, en effet, bon, et en même temps, je crois que le l'aspect conflictuel n'était pas primordial. Il y avait une sorte de lutte d'influence où chacun des deux essayait de prendre le dessus sur l'autre, mais évidemment, Frankenheimer était au service de Lancaster, comme la plupart des gens sur un plateau de Lancaster. C'était quand même pour Burt que tout le monde se mettait au boulot et essayait de faire le meilleur. Et donc voilà, Frankenheimer était extrêmement doué, c'est vrai, moi c'est un réalisateur que j'admire énormément. Il est d'une inventivité extraordinaire, et là, dans ses premières années 60, il est probablement au mieux de sa forme, de toute sa carrière. Là, il fait vraiment des choses invraisemblables dans ces petits espaces, puisque vous avez dit que l'administration n'avait pas laissé les lieux de tournage, n'en avait pas laissé l'accès à l'équipe du film. Et du coup, effectivement, ils ont tout reconstruit en studio, mais à l'identique, c'est-à-dire sans se faciliter le travail, sans se créer des cellules plus grandes, par exemple, ce qui leur aurait permis de déplacer les caméras plus facilement, sans faire de faux plafonds, des choses comme ça. Voilà, donc ils ont vraiment fait des facsimilés, des reproductions identiques des cellules de prison où ça se passe, des espaces communs dans les prisons, etc. Il y a quand même $150,000 de décors construits pour ce film, ce qui est beaucoup à l'époque, surtout un film qui se passe essentiellement en intérieur. Et du coup, ben voilà, dans ces contraintes, Frankenheimer excelle, en fait. Voilà, finalement, la confrontation avec son comédien vedette est peut-être aussi quelque chose qui le pousse à se dépasser, à devenir encore meilleur, et c'est sûr que dans ce film, sa mise en scène est absolument formidable. Bon, et comme vous le dites, l'association des deux donne un résultat où on se dit que voilà, ils se sont poussés chacun sans doute à essayer de faire le maximum, le meilleur, et le film est un reflet très fidèle de cette énergie, cet enthousiasme, cette espèce de volonté qui est criante à l'écran de réussir un film formidable, un classique, quoi, en fait, c'est ça. Et je ne sais pas s'ils le sentent au moment où ils le font, mais ils sentent que le film a un message, le film doit être fort, et donc ils mettent la gomme et ça donne un truc sensationnel.
Birdman of Alcatraz. A strange name for a motion picture, perhaps. But it's the story of one of the strangest men who ever lived. A real story, a real man, a man who is living today. Robert Stroud, American, a convict. Yet, in his achievement, in his fierce independence, he reflects the ideals of the country whose laws he shattered.
You know, I think I've got you figured out, Shoemaker. First day I came here, you as much as asked me to get down on my knees and whip her. I wouldn't do it then, I won't do it now. I won't lick your hand, and that's what eats you, ain't it, Keeper? Well, you keep this in mind. A man ain't whipped until he quits, and I'll never give you that pleasure.
Alors on sait que Lancaster a pris fait et cause hein, pour la personnalité, pour l'histoire de Robert Stroud. Il l'a rencontré après la sortie du film. Et pourtant, ce que vous racontez très bien dans le livre qui accompagne cette édition DVD, c'est que le vrai Robert Stroud n'était sans doute pas aussi poignant, entre guillemets, que ce que Lancaster en fait dans le film. C'est quelqu'un qui était sans doute, avait une vie moins acceptable, plus ambiguë, plus tordue qu'il ne l'est dépeint dans le film.
Oui, en effet, on peut dire que le personnage qu'incarne Lancaster dans Le Prisonnier d'Alcatraz, le Robert Stroud du film, est assez loin de la réalité, même s'il y a des aspects communs. En tout cas, sur le plan du caractère, il semble que Stroud n'ait pas du tout été le personnage un peu compliqué qu'on voit dans le film, mais qui est quand même assez réglo et très finalement assez honnête pour un prisonnier doublement meurtrier. Bon, en fait, non, hein, c'était pas un type si clair que ça. Il a beaucoup de zones d'ombre dans sa vie. Il a beaucoup d'épisodes de violence un peu incontrôlés. Et on ne sait pas s'il n'a pas des tentations aussi homosexuelles vis-à-vis de détenus plus jeunes. Il a un peu bricolé ses ouvrages sur les oiseaux en empruntant de larges parties à d'autres livres écrits par d'autres gens. Bon, donc voilà, il est beaucoup plus trouble, le véritable Robert Stroud. Et quand Lancaster le rencontre après le tournage, il sort de la rencontre en disant « Oui, c'est quand même un vieux renard ». Donc en fait, voilà, il a bien trompé son monde, à commencer par Tom Gaddish, l'auteur du roman Le Prisonnier à 4 heures, puisque c'est presque un roman, enfin, de la façon dont c'est mis en boîte, c'est pas un roman parce que c'est le reflet de la vie de Straub, mais c'est tellement romancé finalement dans l'esprit de Gallis que le portrait qu'il fait du détenu est bien sympathique par rapport à la réalité. Et Lancaster se laisse porter par ça parce que le personnage qui l'intéresse de jouer, c'est le prisonnier d'Alcatraz fictif. C'est pas le vrai Robert Straub, c'est pas de faire un portrait réaliste, c'est de prendre fait et cause, comme vous l'avez dit, pour un détenu au sort très inhabituel et peut-être profondément injuste par certains côtés. Voilà, c'est de dénoncer le système pénitentiaire américain, c'est de dénoncer les excès du système carcéral et les errements de la justice américaine de l'époque. Bon, donc c'est une vraie grande cause. Et du coup, bah, il faut faire de ce Robert Straub-là un personnage aussi sympathique et enthousiasmant que possible.
Eh bien, Doug Edline, merci beaucoup de nous avoir parlé de ce très très grand film de John Frankenheimer. Ceux qui n'ont pas encore vu, précipitez-vous sur cette très très belle édition DVD Blu-ray chez Wildside, avec donc évidemment un Burt Lancaster exceptionnel. Merci beaucoup, Doug Edline, d'avoir
merci
été avec nous. Au revoir.
Au revoir.
Warden, can I have a minute of your time? I mean you, Warden Young. I'd like you to watch something. Okay, Roddy. That's it.
I've never seen anything like that in my life.
Where did you get that bird?
Found him in the exercise yard, sir. Just put your finger on his feet.
What kind of a bird is that?
Sparrow.
Oh, yes, of course, yeah. Well, it must have taken great patience to train them. I admire that.
Then I can keep him, sir?
Well, I don't see why not. You?
You're the warden now, Jess. It's up to you.
I think it'll be permitted. And don't take advantage, Stroud.
I wouldn't think of it, sir.
On continue cette actualité DVD Blu-ray avec 5 et la peau de Pierre Rissian, édité chez Carlotta, film de 1982 avec Féodor Atkin qui est ressorti en salle et qui là maintenant est en DVD Blu-ray version restaurée 4K. C'est le deuxième long métrage de Pierre Rissian, c'est bien ça. Une errance dans les rues de Manille à la première personne, sans dialogue, avec un commentaire constant en voix off et de nombreuses références au cinéaste fétiche de Rissian, un Walsh Lang Preminger. D'ailleurs, à noter que des bonus accompagnent cette très belle édition, dont un documentaire co-réalisé par Pascal Mérigeau et Benoît Jacquot qui s'appelle Gentleman Rissian. Alors, Alexis, pour Revue et Corriger, vous avez rencontré Pierre Rissian quelques jours avant sa mort. Est-ce que vous pouvez nous redire rapidement qui était Pierre Rissian et cette rencontre? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Alors, Pierre Rissian, en fait, c'est un homme de l'ombre qui connaît tous les grands. En fait, son métier l'a fait traverser des années de cinéphilie, à la fois entre justement le cinéma classique qu'on a pu connaître dans les années 40-50, où il a connu les grands, comme vous l'avez dit, comme Fritz Lang, Raoul Walsh, John Ford. Il les a côtoyés quand ils étaient justement sur la pente descendante, et il a été présent notamment pour beaucoup de cinéastes américains qui se sont lancés dans les années 70, qui n'étaient pas forcément bien considérés aux États-Unis et à qui il leur a permis d'avoir une vraie notoriété en Europe. Je pense à notamment à Clint Eastwood, forcément, qui a été un de ses proches. Je pense également au réalisateur de L'Épouvantail,
Jerry Schatzberg.
Jane Campion aussi, il a permis à la faire accéder jusqu'à Cannes en insistant auprès de tout le monde pour comme quoi c'était une cinéaste qui valait des tours et hop, Palme d'Or. Mais aussi, ça a été un énorme défenseur du cinéma asiatique. Grâce à lui, on a pu découvrir les films de King Hu qui retraçaient justement tout ce cinéma qui avait été perdu après la révolution culturelle de Chine, qui avait survécu encore à Taïwan. Et donc, on a pu redécouvrir tout ce cinéma-là, mais également aux Philippines, qu'on découvre dans Cinq et la peau. Et c'est un vrai amoureux de l'Asie comme de l'Amérique et du cinéma en général. Donc, il a été attaché de presse, il a été enfin, il a géré un ciné-club, puis producteur, puis donc réalisateur. Enfin, il a touché à tous les corps de métier du cinéma, mais a toujours été dans l'ombre. Il a toujours été très humble par rapport à ça, mais toujours curieux, fan de western de tous les genres. Et ça, à sa disparition, toutes les personnes influentes du cinéma ont expliqué de l'avoir connu et se souvient très bien les rares fois ou les nombreuses fois avec qui ils ont eu affaire à lui.
Et alors donc vous avez eu affaire à lui.
Mm-hmm.
Et
une seule fois,
quel souvenir gardez-vous de cette rencontre?
Voilà, j'ai eu la chance donc de le voir chez lui donc pour l'interviewer sur 5 et la peau. Donc évidemment j'ai plein de souvenirs que je garderai pour moi-même, où je lui avais présenté notamment le projet de Revue et Corrigée, pour lequel il était enthousiasme en plus haut point, et donc on lui a dédié d'ailleurs le premier numéro, puisqu'il aurait été vraiment le premier lecteur le plus enthousiaste.
Oui, c'est ce que vous dites. Oui, ce premier numéro est dédié à Pierre Hissian, qui aurait été notre premier lecteur.
Exactement. Et parce que lui, justement, c'était le curieux par excellence, et suscitait la curiosité à faire revoir les films à certaines personnes qui ne les avaient pas forcément vus de la bonne manière, ou en tout cas selon sa version. Et moi, j'étais très intimidé puisque j'avais lu notamment Mr. Everywhere, qui est un ensemble
dans Flashback, oui.
compilé par Samuel Blumenfeld, donc sur toute sa carrière, où justement moi j'avais découvert l'existence de Cinq et la peau à travers ces lignes-là, où il y a quelques pages qui sont consacrées au film. Donc je me dis tiens, c'est curieux, j'ai jamais vu ce film nulle part, même en DVD il était introuvable, il a existé en VHS pendant un moment, donc voilà comme quoi ça remonte. Et donc là, grâce à Carlotta, on peut le revoir en une version restaurée de laquelle il a été présent pour la restauration, donc comme quoi là ça a été vraiment sa vision respectée jusqu'au bout. Et c'est d'autant plus cruel que justement il a disparu quelques jours avant la présentation du film à Cannes, où justement ça aurait été son grand moment à lui.
Enfin, on termine cette partie DVD Blu-ray avec une autre édition Carlotta Ultra Collector, celle-là. C'est Professeur Reporter de Michelangelo Antonioni, réalisé en 1975 avec Jack Nicholson et Maria Schneider. Nicholson campe un reporter, David Locke, qui échange son identité avec celle d'un homme mort, découvert dans une chambre d'hôtel en Afrique. Sous son nouveau nom, il rencontre une jeune fille, Maria Schneider, avec laquelle il poursuit son voyage, mais l'homme dont il a pris l'identité est un trafiquant d'armes, lui-même poursuivi par les services secrets. C'est le troisième film consécutif qu'Antonioni tourne loin de l'Italie après Blow Up et Zabriskie Point, et le troisième produit par Carlo Ponti, écrit par Marc Piplo, le scénario donc n'était pas directement d'Antonioni, qui considérait lui-même que c'était l'un de ses films les plus aboutis, selon moi, pour moi son chef-d'œuvre, une œuvre sur la fuite inexorable d'un homme qui veut changer d'identité pour se libérer de soi-même, avec l'une des scènes, messieurs, les plus connues de l'histoire du cinéma, ce plan séquence que l'on étudie encore, je pense, dans les écoles, longue de 7 minutes. La séquence, pour celles et ceux qui n'auraient pas encore vu le film, nous fait passer sans rupture de l'intérieur à l'extérieur pour revenir à l'intérieur. Alors on est, faut peut-être resituer la scène, Marc, Alexis, où est-ce qu'on se trouve et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Donc on est dans une chambre d'hôtel, Jack Nicholson est allongé, on va dire, sur un lit, la caméra parcourt très 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 lentement la pièce, Jack Nicholson est sur un bord du cadre, il sort progressivement, on se dirige vers la fenêtre, il y a une grille, on passe très lentement encore une fois à travers la grille, on se retrouve dans la rue. On continue, la caméra panote, il y a des voitures qui passent, un gamin qui joue. On continue, la vie prend son cours dans la ville. La caméra continue à panoter, revient progressivement dans la maison, revient par la porte, je crois. Et on retombe de nouveau sur Jack Nicholson, et là je n'en dis pas plus pour les gens qui n'ont pas encore vu le film. Et tout ça, donc là j'en ai parlé, j'en ai parlé pendant 20 secondes, mais le plan, voilà, vous l'avez dit, le plan dure 7 minutes avec une fluidité de la caméra qui est assez incroyable, et toujours ce truc un peu formidable de se dire « Ah, il a fait passer la caméra à travers les barreaux, c'est fort quand même ».
Oui, d'ailleurs, il explique, puisqu'il avait élaboré pour ça un système très complexe où une caméra a été maintenue à l'aide de tubes très légers afin de passer de l'intérieur de l'appartement de David à l'extérieur en traversant avec une fluidité déconcertante les barreaux de la fenêtre. Je vous mets au défi de revoir la scène. Même, c'était filmé il y a 45 ans et c'est encore exceptionnel pour une œuvre réellement métaphysique. Ce mot est souvent galvaudé, mais là, je pense qu'il a vraiment un sens dans ce film. Fascinante, l'incarnation de la modernité cinématographique selon Michelangelo
Michelangelo Antonioni, one of the great film artists of this generation,
now takes you on a fascinating and spellbinding journey into identity. Jack Nicholson is the reporter, famous, powerful, respected, and a haunted, driven, desperate man. Maria Schneider, the sensual young star of Last Tango in Paris, is the girl who ran with him and for him.
What are you running away from?
The passenger, a man who's just found a way out. He's changed places with a dead man.
We are sure of the doctor's report. Your husband died from a heart attack.
And he is about to begin an odyssey that will take him into that man's life and fate.
Robertson is involved in illegal arms traffic in our country.
I just sold 5,000 hand grenades, 900 rifles, and a great deal of ammunition to some people fighting a secret war in an obscure part of the world.
A world that will never look the same again.
Let's go.
All right!
The brilliance of Jack Nicholson. The beauty of Maria Schneider. The vision of Antonioni. The Passenger.
Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.